Radio Campus Paris, Grégoire Larrieux, Pierre-Yves Alain, il est 20h et c'est l'heure de Tête de Com.
Tout se réduit à de la communication aujourd'hui.
Tête de Com.
Radio Campus Paris.
La communication ne décide pas, elle révèle.
Tête de com, l'émission qui te remet les idées au clair sur la communication.
J'ai fait bien sa conviction pendant des années. Et en fait, j'ai adoré cette émission. J'ai adoré la faire, sauf qu'au fur et à mesure du moment où j'ai fait pièce à conviction, j'ai vu le mur des communicants arriver, des attachés de presse, des cabinets de crise, de tous ces gens, de tous ces communicants qui étaient autour des dirigeants et qui nous empêchaient d'avoir accès à eux, particulièrement quand on avait des questions sensibles à leur poser.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Tête de Com, l'émission qui vous remet les idées au clair sur la communication. On le dit à chaque fois, mais on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors de quoi on va parler ce soir? Un petit peu de suspense ne fait jamais de mal. On va parler de deux corps de métier qui travaillent régulièrement ensemble, mais qui ne s'entendent pas forcément. Les deux camps ont parfois une vision stéréotypée l'un de l'autre. Nous allons parler de la relation entre les communicants et les journalistes. Et nous sommes sûrs que vous aussi, auditeurs, vous avez votre avis sur la question. Peut-être pensez-vous que chacun essaye de manipuler l'autre afin de contrôler l'information et de vous raconter ce qu'ils veulent, aux dépens notamment d'une certaine impartialité. Et justement, je pense que vous connaissez à nous connaître, à Tête de Com, quand on voit qu'il existe de telles idées reçues, on se dit qu'il faut absolument en faire un sujet. Nous verrons donc ce soir avec nos invités la réalité des relations entre les journalistes et les communicants. Quelles sont les relations entre ces deux corps de métier? Les journalistes pensent-ils être influencés, voire manipulés par les communicants? Ou à l'inverse, est-ce que ces deux corps de métier peuvent prétendre travailler ensemble? Communication et journalisme, une relation impossible, c'est le sujet de cette sixième émission de Tête de Com.
Tête de Com.
Pour en parler avec nous, deux invités. Paul Verdeau, bonsoir.
Bonsoir.
Paul, tu es étudiant au CELSA en Master 2 de journalisme. Tu as travaillé dans plusieurs rédactions, dont Le Point, Le Monde et Le Soir à Bruxelles. Tu es actuellement chroniqueur à Votre Trotteur, un podcast d'information internationale. Avec toutes ces expériences, tu en as croisé des communicants et des attachés de presse. Et tu pourras donc nous éclairer au mieux sur la relation entre journalistes et communicants. À nos côtés aussi ce soir, Olivier Simelière. Bonsoir, bonsoir. Olivier. Olivier, tu es président et fondateur du cabinet Heuristique Communication, un cabinet de conseil spécialisé en stratégie de communication, de réputation, d'influence et d'identité publique. Ancien DIRCOM de grande boîte, tu n'as pas toujours été communicant puisque tu es également un ancien journaliste de presse écrite et de radio. Tu es donc passé du côté obscur de la force, comme tu t'amuses à le dire sur ton blog, le blog du communicant 2.0, sur lequel tu postes des billets d'analyse sur la communication. Enfin, tu es l'auteur de deux livres, Journaliste, nous avons besoin de vous, publié aux Edicool Éditions en 2011, et Manager, parler numérique et booster votre communication, sorti en 2013 aux éditions Kawa.
Tête de com.
Bonsoir messieurs. Alors le travail du communicant auprès des journalistes, c'est avant tout ce qu'on appelle les relations presse. Alors avant de commencer cette émission, on aime bien faire un petit travail de définition pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on appelle concrètement, Olivier, les relations presse et quel est leur but, à quoi elles servent pour les entreprises qui les utilisent aujourd'hui?
Les relations presse ont plusieurs missions, mais on va aller les plus générales. On va dire que d'abord, c'est de contribuer à la notoriété de l'entreprise, de ses activités, de ses produits, de ses services. De aussi faire entendre sa voix lorsqu'il y a des débats sur divers sujets sociétaux, environnementaux. C'est également parfois d'être là pour gérer des sujets plus épineux. C'est ce qu'on appelle la communication de crise. Et globalement, c'est aussi de servir un petit peu de... pas forcément de porte d'entrée, mais de guide pour les journalistes qui s'intéressent à une entreprise, parce que l'organisation d'une société, c'est souvent complexe. Les produits qui sont faits également, et on est là aussi pour aider à mieux comprendre ce que l'on fait.
On sait, Olivier, que les journalistes reçoivent des dizaines de sollicitations chaque jour. Du coup, ils ne peuvent pas lire forcément tous les communiqués ou les dossiers de presse qui leur sont envoyés. Comment on fait quand on est communicant pour sortir du lot et arriver à capter l'attention d'un média ou d'un journaliste?
Bah déjà, on commence par mieux cibler. Ça, c'est quelque chose que j'écris régulièrement sur mon blog. Ça, parce que en étant blogueur, maintenant, je suis référencé dans des bases aussi et je reçois des communiqués. Et je comprends encore plus la douloureuse pour les journalistes. On est inondé. Et tout simplement parce que beaucoup de communicants, d'attachés de presse se contentent d'extraire un fichier, de balancer 200 emails d'un seul coup sans savoir si finalement ce journaliste traite vraiment du sujet ou il est à la marge ou carrément pas intéressé. Donc au contraire, pour émerger, ça suppose déjà bien identifier les journalistes clés de son secteur, les rencontrer physiquement, entretenir des relations régulières et pas simplement lorsqu'on a quelque chose à raconter, ça peut être juste aussi le temps d'échanger sur même plein d'autres sujets et c'est tisser une vraie relation de confiance et de respect.
Paul, tu es d'accord avec ce que dit Olivier? Toi, en tant que journaliste, oui, quand tu es ultra sollicité, comment tu fais pour choisir ce qui t'intéresse? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne lis pas? Pourquoi?
Alors déjà, c'est pas forcément... Ça dépend des rédactions, mais globalement, c'est plus un service qui va recevoir toutes ces sollicitations et savoir s'il va dépêcher quelqu'un sur place ou pas, s'il va s'intéresser à tel ou tel sujet. C'est clair que oui, d'autant plus quand on est un média global, on est inondé de sollicitations. Après nous, voilà, globalement, même si on se rend sur place, même si on discute avec les communicants, rien ne nous oblige à écrire, rien ne nous oblige à publier quelque chose, à reproduire un discours, etc. Donc c'est courant aussi que on se rende compte qu'en fait ça nous intéresse pas et que dans ce cas-là, probablement que le boulot du communicant, soit le boulot du communicant a pas été super bien fait, soit tout simplement c'est quelque chose qui on s'est rendu compte que nous ça nous semblait pas pertinent et dans ce cas-là on va pas pouvoir en faire quelque chose.
Pour nous donner une idée à nous grand public qui connaissons pas forcément le métier, le ratio article que tu écris, nombre de sollicitations, c'est quoi?
Ça dépend des médias. En PQR, souvent...
Presse quotidienne
régionale. Oui, PQR, presse quotidienne régionale. On est souvent amené à... quand on a de la place, à y aller. Mais quand on a un service où il y a peu de place, c'est rare qu'on se rende sur place à la moitié des sollicitations. Ouais.
D'accord.
Et justement, quand on est journaliste et qu'on doit écrire de plus en plus d'articles avec toujours moins de temps, est-ce que là, le rôle des communicants, il n'est pas important? Est-ce que les journalistes n'ont pas besoin aussi des communicants pour obtenir plus vite de l'information?
Les journalistes ont quand même besoin des communicants, j'ai pas dit le contraire. Mais après, tout dépend de ce qu'on appelle communicant. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué à définir. Ça dépend de quel niveau d'opacité on a pour des entreprises, pour des institutions, etc. Ça dépend. C'est vrai qu'on a de plus en plus de choses à écrire, que le temps est de plus en plus court, mais nous, notre métier, de toute façon, ça sera jamais de reproduire le discours d'un communicant. Ça peut être de le citer, ça peut être d'utiliser ce qu'il dit, mais toujours en le posant dans un contexte, parfois en l'opposant à d'autres visions, parce que sinon la hantise des journalistes, c'est que on n'est pas posé les questions que vont se poser les lecteurs. Nous, on est là pour poser des questions, on est là pour avoir des réponses. Si on n'a pas posé les questions qu'il faut, nos lecteurs vont nous en vouloir parce qu'ils vont nous dire « Vous n'avez pas fait votre boulot, vous avez reproduit les réponses. » Alors, évidemment, ce n'est pas forcément négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des choses cachées, des choses que les communicants voudraient nous cacher, des zones d'ombre, etc. C'est très caricatural de dire ça. Mais il y a forcément... Des questions qu'il faut qu'on explore, des choses auxquelles les communicants n'ont pas forcément pensé, n'ont pas forcément envie de nous parler. Et nous, il faut quand même qu'on pose les questions. Donc, comme on dit souvent, on peut pas imaginer écrire un article à partir d'un communiqué de presse. On peut avoir les éléments du communiqué de presse, puisque c'est un discours, le communiqué de presse, c'est une citation, mais on appelle des gens, on téléphone, on appelle d'autres institutions, d'autres personnes, pour avoir leur avis, pour essayer de faire un condensé, une synthèse, et apporter le plus d'informations aux gens. Parce que ce qu'il nous faut, c'est des informations, c'est pas forcément juste des discours, des avis.
Alors, tu viens parler, Paul, du fait que vous, les journalistes, vous ne reprenez pas forcément ce que vous donne à voir les communicants. Pas tout, en tout cas. Ça fait partie des idées qu'on a un petit peu quand on ne connaît pas trop le métier. Mais il y a aussi des choses qui se font. C'est justement ces journalistes qui, parce qu'ils sont débordés, reprennent tel quel ce que leur envoient les communicants. Ce sujet, je voudrais qu'on écoute Nordine Nabili, qui est journaliste. C'était lors d'une conférence organisée à France Télévisions.
Or aujourd'hui, moi je reçois quasiment 50 communiqués de presse par jour, des communiqués de presse qui sont quasiment des articles tout écrits, il n'y a plus qu'à mettre un titre et un chapeau et vous le publiez. Tout ça pour dire que les journalistes ont aussi été, ou sont tenus finalement par la culotte, par les communicants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez n'importe quel homme public a une petite armée autour de lui, des agences de casting, du média training, et donc il est capable évidemment de faire porter sa parole.
Olivier, je suis sûr que tu t'es dit une fois, même plusieurs fois dans ton métier de communicant, en ouvrant le journal le matin, ah super, ils ont repris tout ce qu'on leur avait envoyé, mot pour mot. C'est quand même une réalité du métier que les journalistes reprennent aussi ce que disent les communicants. C'est assez répandu, on est d'accord ?
Oui. Oui, non, clairement, on va pas se le cacher. Certains communicants n'attendent que ça, d'avoir un copier-coller et d'avoir le plus possible de citations dans un article. Et là, ils estiment avoir atteint leur but. Ça, c'est une approche de la communication qui a longtemps existé, qui existe encore, mais qui a quand même tendance à perdre de la vitesse. D'abord parce que les journalistes se font de moins en moins avoir, sauf ceux qui sont un peu paresseux ou n'ont pas le temps. Ça existe aussi, hein, les défauts et les travers, c'est des deux côtés qu'on les trouve. Et puis après, vous avez une nouvelle génération de communicants dont j'estime faire partie. Alors peut-être parce que je viens aussi du journalisme et que quand j'étais journaliste, rien ne m'énervait plus justement qu'on attende de moi que je sois juste une boîte à écho et rien d'autre. Mon travail, comme l'a fort bien décrit Paul à l'époque, c'était voilà, de contextualiser et d'expliquer, quitte à reprendre certains éléments d'un dossier. Pourquoi pas, si je trouve l'info intéressante, valide, je la prends. Voilà, et moi en tant que communicant, quand j'ai été à la DIRCOM de plusieurs grandes entreprises, j'applaudissais pas des deux mains quand j'avais un papier que je retrouvais à l'identique sur, je sais pas, Slate.fr, on s'est pas arrivé avec Slate, hein, mais je cite comme ça plein de sites où finalement on a à chaque fois les mêmes choses qui sont redites. Ça ne dupe personne, surtout qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus critiques. Parfois à tort d'ailleurs, ils voient le mal où il n'existe pas, mais ils sont globalement plus critiques et mieux informés. Or, avoir toujours la même chose partout, ça contribue à uniformiser le discours. Et qui est-ce qui est perdant au final ? Le journaliste, parce qu'il est soupçonné de collusion et d'avoir répété comme un perroquet. Et le communicant, de toute façon, parce qu'on dira « bah ouais, vous avez vos éléments de langage, et puis voilà, vous dites rien d'autre, vous planquez les choses ». Donc personne n'est gagnant au final. Donc bien sûr, on a des éléments de langage parce qu'il faut bien qu'on explique ce que l'on fait avec certains mots. Mais ça ne veut pas dire qu'après, le journaliste, il est tenu de recopier à la lettre près, à la virgule près, tout ce qu'on lui a dit. Du moment qu'il respecte honnêtement et retranscrit fidèlement les propos.
Et pour qu'il respecte honnêtement et fidèlement les propos, est-ce que les communicants demandent souvent aux journalistes de relire les articles ?
Alors ça, c'est une vraie bonne question. Moi, personnellement, je n'ai jamais voulu. Je ne refuse, et ça existe encore, de moins en moins heureusement, mais ça existe encore, certains qui voulaient relire les articles, notamment dans la com politique, ça existe encore, il y a même encore aujourd'hui des ministères qui exigent de relire certains articles. C'est une erreur totale, de toute manière, parce que bah, vous brisez le rapport de confiance entre le communicant et le journaliste. Et puis si le journaliste, de toute façon, vous lui envoyez une copie trop amendée, rien ne l'empêche lui de rebidouiller derrière et au final d'augmenter le risque d'erreur. Donc moi, je n'ai jamais pratiqué ça. Les seuls cas d'exception, c'est dans le cas parfois de citation d'un président, par exemple, où on extrait un ou deux verbatim et qui, s'ils sont mis dans un certain contexte, peuvent être interprétés à double sens et parfois ça peut avoir des conséquences très importantes sur un cours de bourse, sur etc., si la mauvaise interprétation est faite. Alors parfois, je disais aux journalistes, si vous avez un doute sur une citation, à ce moment-là, dites-moi. Et je vous dirais si la citation, non, c'est ça, c'est bon, c'est pas exactement les mots même qu'il a dit, mais globalement, le sens y est. Où là, ça m'est arrivé une fois avec une journaliste qui a eu un très bon réflexe. C'était une interview en anglais en plus et elle avait fait un contresens. Bah, heureusement qu'on a pu corriger ça parce qu'on aurait fait dire au président n'importe quoi. Et alors derrière, je pense qu'elle se serait fait remonter les bretelles par son rédac chef. Et nous, on se serait retrouvés à devoir ramer, à expliquer un truc qui n'existait pas.
Paul, ton approche, c'est un peu la même sur cette question de la relecture des articles.
Tout à fait d'accord. Je ne fais jamais relire un article à personne. À mon responsable, mais non, là où Olivier a raison, c'est pour ce qui est des citations, pour ce qui est des chiffres, pour ce qui est des précisions. Oui, on a toujours, si on a un doute, on sait qu'on peut rappeler un communicant pour lui demander des précisions. Et de toute façon, on en a besoin. C'est notamment ce qu'on ressort des communiqués de presse, des dossiers de presse. C'est essentiellement, par exemple, quand on travaille dans la rubrique économique, c'est les chiffres, c'est des précisions, toujours en précisant évidemment que c'est selon l'entreprise, en précisant la source, parce qu'on a besoin de préciser la source. Mais non, voilà, on ne va pas rejeter en bloc tout ce qu'on nous soumet à nous. Et essentiellement, voilà, tout ce qui est information factuelle, on va l'extraire. Si on a besoin d'une précision, on va appeler. Mais on ne fera pas relire l'article dans l'ensemble. Si l'entreprise n'aime pas notre article, ils pourront toujours nous le dire après, nous empêcher d'y retourner ou ce qu'ils veulent. Mais voilà, l'article, il est indépendant.
Et autre petite pratique, justement, de contrôle, on va dire, des communicants sur ce qu'écrivent les journalistes, est-ce que ça vous est arrivé d'envoyer des questions auparavant, avant une interview à la personne intéressée pour qu'elle voit ce que vous alliez lui demander? Est-ce que ça se fait?
Ça se fait, et pas forcément dans l'optique de manipuler l'interview, ça se fait parfois quand on est sur des sujets très techniques. Ça m'est notamment arrivé dans les secteurs technologiques où j'ai travaillé, où parfois on a des journalistes qui ne sont pas forcément spécialistes du secteur. Et là, bah, on leur demande simplement quel est l'angle exactement que vous voulez travailler, parce que parfois on a des demandes qui sont très floues, qui sont même pour nous dures à cerner. Du coup, on ne comprend pas vraiment le sens de la demande et on risque d'aboutir à un dialogue qui tournera en rond, qui sera complètement contrefait. Donc voilà, mais après, je ne demande pas sur une interview radio ou sur cette émission, par exemple, je n'ai pas demandé les questions à l'avance. Il y a un moment donné, on doit être aussi soi-même, en tant que communicant, et puis l'entreprise, ceux qui sont amenés à s'exprimer, donc des directeurs, des experts, etc., doivent être au clair avec leur propre discours. Et quand on est au clair avec son propre discours, il n'y a pas de problème. On est capable d'anticiper un paquet de questions.
On se retrouve juste après Drunk de Nord. On se retrouve donc pour une deuxième partie où on abordera plus en profondeur la relation entre les journalistes et les communicants, toujours avec Paul, en master de journalisme au CELSA, et Olivier Simelière, président fondateur du cabinet Heuristique Communication.
Que je ne tiens plus le coup, mais tout ne tient qu'à moi. Moi qui bois comme un trou, malgré tous mes efforts, je me suis égaré. Ma foi, comme j'ai eu tort de ne pas t'écouter. Sous couvert d'ironie, je voulais rester fier et pris de sympathie, je me suis resservi un verre. Drunk in Lithuania. Drunk in Cuckooland. Drunk in Lithuania. I've made loads of mistakes. Drunk in Lithuania. Drunk in Cuckooland. Drunk in Lithuania. I've made loads of mistakes. J'ai pas noyé ma honte, j'ai claqué toute ma thune. Je sais pas comment je vais faire pour revenir vers toi, pour regagner la terre. Maintenant que tu n'es plus là, ça se voit tant que ça, que je ne tiens plus debout. Allez, resserre-moi et trinquons un bon coup. Drunk in Lithuania, drunk in Copeland, drunk in Lithuania. I've made loads of mistakes. Drunk in Lithuania, drunk in Copeland, drunk in Lithuania. I've made loads of mistakes.
On a vu dans ce début d'émission avec Paul et Olivier ce qu'était globalement le travail, l'échange entre le journaliste et le communicant pour faire l'information. On va voir maintenant un peu plus la nature de cette relation qui peut être assez particulière puisqu'elle oscille entre la nécessité que les journalistes et les communicants ont de travailler l'un avec l'autre et leur tendance à peut-être toujours vouloir s'influencer, voire se manipuler.
Paul, on dit souvent que les journalistes ont une mauvaise opinion de la communication. Quel est ton avis personnellement? Toi, tu es au CELSA, c'est une école qui est à la fois de journalisme et de communication. Des journalistes, des communicants, pardon, tu dois en côtoyer. Donc, est-ce que tu sens auprès de tes camarades journalistes, est-ce que toi-même tu sens que y a une sorte de rivalité qui existe quand même entre ces deux corps de métier?
Le fait que souvent on associe l'information à la communication dans les études, que voilà, il y a des écoles où on enseigne les deux. C'est vrai à jouer un peu sur la confrontation des deux, d'autant plus que voilà, le but de la communication c'est de parler et le but du journalisme c'est de faire parler. Donc c'est vrai que c'est une relation qui est forte, qui évidemment, c'est vrai que nous, quand on est journaliste et qu'on veut s'adresser à une boîte ou que quelqu'un nous parle, c'est forcément un communicant, ce sera forcément une sorte d'écran. Alors oui, ça peut nous agacer quand on sait que la personne va nous accueillir avec un café et un sourire en lui disant « Bonjour, aujourd'hui ça va être super, vous allez faire un super papier sur nous, on va tous être très contents ». Alors que nous, notre objectif, c'est de savoir, d'avoir de l'information. C'est, pour caricaturer, on pourrait voir de manière assez traditionnelle le journaliste comme un juge et le communicant comme un avocat. C'est évidemment hyper caricatural, mais c'est un peu cette vision qu'on a. Et forcément, c'est vrai que les communicants, on sait qu'ils ont, ils ont une ligne directrice. Les journalistes, normalement, ils sont pas censés en avoir. Après, on sait que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, que les journalistes ont besoin des communicants. Que les communicants ne peuvent pas faire grand-chose contre les journalistes. En vrai, ils en ont besoin pour informer. Donc après, oui, évidemment, la rivalité, elle sert à rien. C'est comme toutes les rivalités, elle est risible. Mais c'est vrai que notre relation est compliquée et qu'il faut travailler cette relation, il faut s'y confronter parce que ce n'est pas quelque chose qui va de soi.
Est-ce qu'en cours, on vous apprend à gérer la relation entre les communicants et les journalistes ou est-ce que ça s'apprend plus sur le tas?
Je dirais que ça s'apprend sur le tas pour tout ce qui est de sur le terrain, c'est-à-dire d'être face à des... Sur le terrain, j'entends pas forcément en vrai, ça peut être au téléphone, hein, mais au moment de la recherche, de l'enquête. Après, nous, en cours, ce qu'on va travailler plutôt, c'est la relation entre les journalistes et les communicants et les publicitaires au sein d'une rédaction. Notamment, à partir de quel moment est-ce qu'on a le droit de côtoyer de la publicité, quelle est la place d'une régie publicitaire dans un média, est-ce que parfois ça prend pas un peu trop de place, est-ce que le native advertising, est-ce que le public reportage, c'est des choses qui conviennent à l'éthique journalistique? Ça, c'est des questions qu'on va plutôt se poser, ouais. Après, oui, pour tout ce qui est de notre relation, nous, avec les communicants, on l'a apprise sur le terrain, sur le tas, c'est clair, ouais.
Olivier, Luc Herman, qui a réalisé le reportage Les Hommes de l'Ombre diffusé sur France 5, a déclaré à 20 minutes qu'aux États-Unis, il y a, je cite, 4,6 communicants pour un journaliste et que c'est terrifiant. On n'a pas le chiffre pour la France, mais en quoi ça peut être terrifiant qu'il y ait beaucoup plus de communicants que de journalistes?
Ah, mon ami Luc Herman va se dire « Oh non, encore lui ». On a déjà eu un débat lorsqu'il avait fait un précédent reportage qui s'appelait « Jeu d'influence », qui avait été à la fois un documentaire et puis après un jeu en ligne. Autant le jeu en ligne est plutôt génial et bien fait, je le conseille et aux communicants et aux journalistes. Ça s'appelle « Jeu d'influence ».
On le mettra sur notre site internet, ouais, pour retrouver tout.
Là, ça permet de se mettre dans la peau, justement, c'est un jeu très immersif. Autant j'avais mis un billet assez assassin sur son reportage le soir même, parce que bah voilà, il avait été interviewé, tout ce qui est, je vais pas dire de plus caricatural, mais qui, en effet, certaines personnes dans la profession des communicants ont une vision bien spécifique, bien particulière et plutôt critiquable à mon sens du métier, mais ça représente pas les à peu près, les chiffres varient selon les sources, mais en gros on est 70 000, 75 000 communicants au sens large du terme, parce que dans la communication on englobe beaucoup de choses. Et Luc Herman aime bien, à chaque fois, on avait eu un débat sur France Inter, justement, il m'avait sorti l'histoire du travail, l'interdiction du travail du dimanche dans les magasins de bricolage. Il m'a dit « c'est scandaleux, la direction a payé des agences de communication pour créer des slogans, des panneaux, et puis après les salariés défilaient dans la rue et tout ». Je dis, mais en quoi c'est scandaleux? L'entreprise, elle défend quelque chose. Quand c'est des syndicats qui font la même chose et qui ont aussi des agences de communication, pourquoi alors à ce moment-là, c'est plus scandaleux à vos yeux? Donc je dis non, là, il n'y a pas de manipulation. L'agence, effectivement, elle a aidé les salariés qui n'ont pas l'habitude de faire ça à défiler, et c'était des salariés volontaires, on leur a pas mis le couteau sous la gorge. Donc c'est le grand fantasme de dire, il y a plein de communicants, on est cernés, on n'y arrive plus. Le problème est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de communicants aujourd'hui, mais parce que les rédactions se vident. Et pourquoi les rédactions se vident? Parce que, et là, peut-être que ça va faire grincer des dents chez des directeurs de rédaction ou des journalistes, mais parce que souvent, les médias sont mal gérés et ont très longtemps vécu de la pub qui se raréfie, qui est plus complexe à attraper et tout, pour compenser certains trous. Et on ne se souciait pas forcément d'ailleurs du lecteur, ou alors on fait de l'audience, du buzz à tout prix. Et forcément, à un moment quand ça va plus du tout économiquement, on tape où? Dans les rédactions. Et moins il y a de journalistes, bah oui, forcément, là aussi, moins l'information est qualitative. Et plus il y a de communicants qui, eux, envoient leurs trucs, mais ce n'est pas systématiquement la faute du communicant.
Alors Paul, on parle souvent du off, duquel vient souvent des informations un peu scandaleuses et qu'on pourrait dire volées. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ce fameux off et si les journalistes le respectent vraiment ou pas?
Le off, c'est une période pendant laquelle, dans une interview, c'est un contexte dans lequel les informations qui vont nous être transmises ne doivent pas figurer dans le journal, ne doivent pas être transmises au public. Ça nous arrive, ça m'est arrivé au Monde récemment, c'est-à-dire que c'est un moment où on considère que soit l'information est trop précieuse, soit elle relève d'un secret, soit elle n'est pas censée sortir, peut-être aussi parce qu'elle n'est pas vérifiée, elle n'est pas censée sortir de ce cadre. Récemment, par exemple, j'ai été invité pour représenter Le Monde à une réunion de l'association Change.org. Cette réunion était sous le sceau du off, c'est-à-dire qu'en entrant, on m'a dit « si vous voulez réutiliser ces informations, il faudra nous prévenir ». Pour plein de raisons, probablement parce que les personnes en question n'étaient pas des communicants, étaient des personnes du directoire de l'entreprise, et que donc leur discours n'était pas forcément vérifié, n'était pas forcément ce que l'entreprise voulait transmettre. Et après, c'est notamment le principe de la caméra cachée. Il y a des moments où les journalistes estiment qu'il est nécessaire de transmettre ces informations malgré le fait que l'entreprise ne souhaite pas les transmettre, parce que ça relève de l'intérêt général. Donc évidemment, ça nous pose problème, même si nous on respecte évidemment la plupart du temps, on respecte le off et on comprend que l'entreprise est pas, elle souhaite pas que ces informations soient dévoilées, parce qu'on n'est pas forcément, le journalisme n'est pas un moyen de divulguer à peu près tout et n'importe quoi, d'espionner, c'est pas de l'espionnage. Donc à partir de là, nous on respecte le off de manière assez régulière. Ouais.
Et en même temps, Olivier, ces communicants qui disent « là, c'est en off maintenant », ils savent très bien que si c'est des informations trop sensibles, ils ne les diraient pas. Donc à côté de ça, le off aussi peut être utilisé, on est d'accord, par les communicants pour, alors on reprend toujours ce terme qui n'est pas forcément juste, mais manipuler le journaliste, lui faire dire des choses par derrière, un peu à la détourner.
Mais tout dépend quelle éthique vous appliquez à votre métier, que ce soit du côté journaliste ou du côté communicant. Bien sûr, le off, ça recouvre beaucoup de choses. Et puis le off, c'est une grande hypocrisie parce qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et c'est pas les gens du Canard Enchaîné qui vont dire le contraire, parce que généralement c'est toujours des offs mais qui ont vocation à se retrouver sur la place publique, et c'est des coups à trois bandes derrière. Bon, on est dans la communication politique, qui est un domaine certes un petit peu spécifique, mais voilà. Après, le off, moi je l'ai utilisé d'abord avec des journalistes avec qui j'ai construit une relation de confiance. C'est-à-dire, je sais que ce sont des gens qui travaillent bien, sérieusement, qui valident leurs informations, qui voilà, on peut. Et le off, il me servait à leur donner des éléments de contexte pour qu'ils comprennent mieux un sujet. Voilà, c'est tout. C'est par exemple, sur un produit, donc, qu'ils comprennent un petit peu qui sont les concurrents, comment on se positionne. Ça n'a effectivement pas vocation à se retrouver sur la place publique parce que d'abord, il y a parfois des secrets de concurrence de marché, tout simplement. Donc, on ne va pas annoncer à notre concurrent à l'avance que dans 6 mois, vous allez avoir la nouvelle voiture électrique, je ne sais pas comment... Voilà, ça c'est quand même normal, mais en même temps, le journaliste, si vous avez confiance en lui, vous avez parfois besoin de lui dire des choses en off, justement, pour qu'il comprenne mieux pourquoi on fait ci ou pourquoi on fait ça. Voilà, et c'est tout. Et quand c'est géré comme ça, pour moi, il n'y a pas de manipulation. Maintenant, oui, bien sûr, on peut faire de la manipulation, mais même tout le monde au quotidien peut en faire aussi. Hein. Ah, je te dis ça, mais tu le répètes pas. Et puis, on sait qu'à la machine à café, il y en a, c'est parfait amplificateur.
À la base, c'est une relation assez... On redécouvre une relation humaine à travers le off. C'est-à-dire qu'on ne représente plus le média et la personne ne représente pas forcément l'entreprise. On est dans quelque chose où le communicant va dire bientôt, on risque de faire quelque chose. Ce que disait Olivier sur le contexte, c'est exactement ça. C'est de dire, voilà, si vous n'avez pas tout compris, on va vous remettre un peu, on va vous réexpliquer tout ça. Alors que c'est pas... Évidemment, c'est... Dans le cadre du discours, ce ne sera pas un discours qui est censé se retrouver, mais évidemment, c'est des éléments qui vont permettre aux journalistes de ne pas dire n'importe quoi et de comprendre un petit peu les enjeux. Parce que les enjeux, on n'en parle pas forcément facilement dans une interview. C'est quelque chose de... C'est un peu les coulisses, en fait, le off. Et ces coulisses-là sont importantes aussi.
Et après, bon, ce qui est marrant, c'est lisez bien justement les sites web ou les journaux. Quand un journaliste veut absolument reprendre un off... Et pour pas griller sa source, il met généralement selon une source proche du dossier ou selon un membre du cabinet. Voilà, on sait à peu près d'où ça vient, mais on ne sait pas qui parle, et le journaliste l'utilise. Après, c'est un pari que le journaliste fait, parce que s'il va trop loin dans la révélation de certaines choses, il sait qu'il est grillé derrière, parce que encore une fois, la relation de confiance est cassée.
On a beaucoup parlé de manipulation dans la relation entre les journalistes et les communicants, parce que c'est souvent l'idée qu'en a le grand public. Mais est-ce que c'est la réalité de cette relation? Est-ce que toi, Paul, tu t'es déjà retrouvé face à un communicant et t'as vraiment eu l'impression qu'il était en train de te la mettre à l'envers?
Oh, quelle jolie expression. ça m'est arrivé d'être coincé devant un communicant. C'est-à-dire que à aucun moment le communicant ne pouvait faire des concessions. C'est-à-dire qu'il avait très bien bossé son dossier, et même sur des sujets où on était tous les deux, enfin je pense qu'on était tous les deux d'accord, et même le lecteur était probablement d'accord que il y avait des failles, etc. On les blindait, ces failles, on voulait pas en parler. À partir de là, on n'est pas là pour faire la publicité d'une marque ou d'une entreprise. Si à aucun moment on peut aller plus profondément là-dedans et essayer d'avoir un petit peu des nuances, ça ne sert à rien de publier le papier. Et c'est un petit peu, c'est ça, c'est-à-dire que si on a le sentiment de se faire manipuler, on va être très, on va laisser tomber le dossier, ou on va essayer de le prendre par une autre source, etc. Il y a plein de, d'éléments qu'on a qui nous servent à rien parce que on sait que bah, c'est du cirage de pompe ou que c'est absolument pas pertinent. Voilà, il y a une question de pertinence aussi. C'est vrai que on sait qu'on va nous le reprocher, on sait qu'on que ça ne va même ne rien apporter au, au dossier, à l'information. On va pas le faire. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'éviter de se faire manipuler.
Il y a cette question donc, de la manipulation avec un vrai rapport de force derrière pour faire l'information, on va dire. Mais en même temps, ce qui est ambigu dans la relation journaliste-communicant, c'est qu'il y a aussi une grande proximité. On dit souvent les frères ennemis, ça veut un peu tout dire. Du coup, un bon communicant, notamment en relation presse, c'est souvent quelqu'un qui a une relation de longue date avec les journalistes, qui va très bien les connaître, qui va les rencontrer régulièrement, parfois les tutoyer, parfois être amis même. Du coup, est-ce que quand les journalistes parviennent à un telle proximité avec les communicants, il y a une impartialité qui peut toujours avoir lieu? Comment ça se passe?
Alors effectivement, ça pose le débat de déjà l'objectivité. Personnellement, j'ai toujours dit, et je l'ai même écrit dans le premier bouquin que j'avais publié, que l'objectivité, ça n'existait pas, parce que de toute façon, on est tous des êtres humains qui ont leur propre culture, leur propre sensibilité. Pour moi, c'est une question d'honnêteté déjà. Alors fatalement, lorsqu'on se connaît, pour peu qu'en plus on devienne après des amis, il peut peut-être y avoir une tendance à être un peu plus cool, mais il y a aussi une autre manière d'approcher le dossier. Hein. C'est soit le journaliste dit non, mais là, sur ce sujet-là, je suis trop proche de un tel ou un tel, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui traite ça dans la rédaction, qui lui sera complètement neutre. Ou inversement, le communicant peut aussi dire non, bah, moi, je préfère travailler avec des gens qu'on évite de mélanger le pro et le privé. J'en reviens toujours à cette notion d'éthique, de confiance, de, voilà, de respect de la personne. Si on arrive à clarifier ça, déjà, on démine 90% des problèmes. Après, la manip, bien sûr qu'elle peut exister. Elle existe dans certains secteurs sensibles. Ça peut être les secteurs à gros enjeux, type l'armement, par exemple, la chimie, l'industrie du tabac, j'en parle même pas. Alors eux, effectivement, ils ont quelques casseroles et des belles parce qu'ils ont carrément enfumé la presse. Mais résultat de cette stratégie aujourd'hui, c'est qu'ils ont une image calamiteuse. Et aujourd'hui, on sait que la réputation, ça a un coût maintenant, un vrai coût. À tel point d'ailleurs, c'est même maintenant comptabilisé dans les résultats d'exploitation des grandes entreprises. Donc oui, on peut toujours manipuler, mais dans un monde aujourd'hui digitalisé où l'info circule très rapidement, alors il y a à boire et à manger évidemment, mais globalement l'info circule très rapidement, c'est prendre des risques à mon sens excessifs que de vouloir manipuler comme ça un journaliste. Parce que même si on en manipule un, il y en aura forcément un autre qui lui trouvera autre chose et ça vous reviendra puissance 10 dans la figure.
On sait que les journalistes reçoivent parfois des cadeaux de la part des entreprises, comme des produits, par exemple, sur lesquels les entreprises veulent que ces journalistes écrivent. On pense aussi notamment aux voyages de presse. Dans quelle mesure les journalistes peuvent accepter ces cadeaux? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts?
On les accepte, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les utiliser. C'est-à-dire que faire un cadeau, c'est très gentil. Après, ça ne change rien à la relation. À aucun moment, ça va nous influencer. Et on sait que ça se fait. On sait que parfois, ça peut nous être utile pour comprendre le produit. Mais globalement, c'est vrai que la notion de cadeau, c'est quelque chose de... pour nous, ça nous passe vraiment au-dessus, quoi.
Oui, mais on est d'accord que, par exemple, un voyage de presse, quand l'entreprise qui te contacte t'envoie à l'étranger pour voir ce qu'elle fait, par exemple, sur une usine, tu ne vas pas dire sur un voyage qui leur coûte des milliers d'euros, ensuite, bon non, finalement, j'écris rien, ça ne m'a pas beaucoup intéressé.
Ben, c'est la responsabilité de l'entreprise d'organiser ces voyages-là. À partir de là, nous, à aucun moment, on ne leur est redevable de quelque chose. Après, on peut les avertir et leur dire. Ça, c'est mieux pour eux. C'est vrai que ça peut leur éviter de dépenser beaucoup d'argent, qu'on n'est pas forcément certain de faire un article là-dessus, etc. Nous, on va beaucoup plus valoriser quelque chose lorsqu'on est envoyé sur place par notre rédaction que lorsqu'on est invité par une entreprise. C'est du clientélisme. Nous, on ne marche pas avec le clientélisme. On n'est pas censé, en tout cas. C'est clair qu'il y a des casseroles de journalisme, bon, je ne citerai pas les noms de titres de presse, mais on sait qu'il y en a qui marche de près ou de loin avec des organisations politiques ou des entreprises. Et forcément, ça fait jaser dans le métier, parce que c'est clair que c'est absolument pas... ça entache l'image du métier, et c'est absolument pas ce que la plupart des journalistes souhaitent faire dans leur métier.
Juste avant qu'on continue, Paul, on t'avait offert une bouteille d'eau pour que tu écrives sur nous. Tu nous la rembourseras si tu n'écris pas, d'accord?
Olivier, tu es d'accord avec ce qui s'est dit?
Alors, sur les voyages de presse, moi, j'ai toujours été très clair et j'ai une anecdote à ce sujet. C'est avec une journaliste de Libération. Et Libération est un journal qui refuse les voyages de presse payés par l'entreprise. Enfin, c'est en tout cas une des règles. Alors, il y a peut-être d'autres médias, mais Libé, je sais que eux, c'était niet. Et il se trouve qu'à l'époque, je travaillais dans les télécoms. On avait vraiment une journaliste que je connaissais, qui était très bonne. Je voulais lui montrer quelque chose, mais on l'emmenait en Suède. Et elle me dit, je ne viendrai pas. Je lui dis, non, mais je ne conditionne pas ça à un papier. Si vous trouvez que c'est intéressant, vous écrivez ce que vous avez vu, ce que vous avez compris. Et si vous ne trouvez pas ça intéressant, c'est pas grave, je ne vais pas appeler après le directeur du journal. Voilà. Si on pose les règles dès le départ, je pense que là aussi ça peut bien se passer. Après, il y a ceux qui réclament les cadeaux, ceux qui louent des voitures, notamment le jeudi après-midi et les rendent le lundi matin. Ça existe, hein, ça aussi, ou qui appellent pour avoir des nouveaux téléphones portables et puis qui vous les rendent 8 jours après parce qu'ils ne sont pas contents, ils en veulent un autre. Tout ça existe. C'est pas la majorité, hein, globalement.
On se retrouve juste après Ratatat Crime on Chrome pour la troisième partie de Tête de Com. On parlera plus précisément du rapport à l'information et nous sommes toujours avec, disons-le, les meilleurs invités du monde, Paul Verdeau, qui est en Master 2 journalisme au CELSA, et Olivier Simelière, président fondateur du cabinet Heuristique Communication. retour sur le plateau de Tête de Com, toujours avec Paul Verdeau, en master de journalisme au CELSA, et Olivier Simelière, président fondateur du cabinet Heuristique Communication. On va parler notamment de la relation qu'entretiennent les communicants et les journalistes avec pour enjeu le contrôle de l'information, mais aujourd'hui aussi ce rapport à l'information qui justement évolue, et avec lui cette relation entre ces deux corps de métier.
Oui, la relation évolue parce que l'information évolue, en tout cas c'est ce dont on a l'impression nous. Par exemple, Paul, on a l'impression que les journalistes cherchent toujours plus à obtenir la petite phrase, parfois au détriment de l'information. Pourquoi selon toi, et est-ce qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'une information aujourd'hui pour un journaliste vraiment, qu'est-ce qu'il attend par exemple quand il interviewe quelqu'un, est-ce que c'est juste cette petite phrase ou est-ce que c'est une impression?
Bah, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que c'est, l'information c'est, ça a toujours été une question, qu'est-ce que c'est l'information, qu'est-ce qu'on va chercher, si on va absolument chercher une réaction de la part de quelqu'un, je pense pas que ce soit une bonne initiative de commencer en se disant cette personne va me dire quelque chose d'une manière ou d'une autre, même si ça n'apporte rien au débat, elle va dire quelque chose, elle va réagir, et on va chercher la petite phrase, comme tu dis. La petite phrase, ça n'a aucun sens. C'est pas... Alors, on aime bien quand il y a des expressions marquantes, parce que là, pour le coup, c'est pas de l'information, c'est plus du domaine de la communication. C'est parce que ça va susciter... Ça va traduire une émotion, ça va traduire une manière de voir les choses qui va être intéressante pour le lecteur, parce que ça va lui remettre un peu le contexte, lui transmettre ces émotions-là, ces éléments-là. Donc c'est bien quand on a quand quelqu'un nous dit quelque chose qu'on juge pertinent et tout, mais après, tout est dans la différence entre, quand on fait une interview, entre la citation et les informations qu'on va nous donner. On va pas reciter entre guillemets tout ce que dit la personne. On va utiliser certains éléments pour apporter de l'information brute, des chiffres, des dynamiques, etc. À un moment, rendre les choses plus vivantes en faisant intervenir la personne sur ce qu'elle pense, elle, parce que ses propos l'engagent, elle. Après, il y a des choses qui engagent l'entreprise, des choses qui engagent la personne. Donc, je pense que nous, ce qu'on recherche dans une interview, c'est un peu des deux, c'est-à-dire un peu l'information et en même temps ce que la personne, elle, pense, ce que la personne défend. C'est-à-dire on fait une interview d'une personne, on ne fait pas une interview d'une entreprise. À aucun moment on va interviewer quelqu'un juste pour ce qu'il représente, on va aussi l'interviewer pour ce qu'il est lui. Et à partir de là, il y a des éléments qui vont nous intéresser, de communication, des éléments d'information, les deux nous intéressent.
Et justement, Olivier, comment font les communicants pour donner l'information qu'attendent les journalistes? Est-ce que ça passe par le média training?
Oui, alors le média training, c'est pas une chose sale, hein, même si certains le décrivent parce que voilà, ils se préparent, ils vont connaître toutes les ficelles des journalistes. Mais c'est tout simplement un entraînement parce que parler devant un micro, une caméra, ça coule pas de source. Les gens, notamment dans les entreprises qui sont amenés à s'exprimer, sont pas au départ des pros de la communication ou d'anciens journalistes. Donc ça peut déstabiliser. Et on sait très bien que, notamment pour la télé ou même la radio, qui est en plus très souvent filmée maintenant, ce que va dire la personne est une chose, mais sa gestuelle, sa voix, etc., c'est peuvent parfois complètement brouiller le message, tout simplement parce que la personne aura été nerveuse, pas à l'aise, intimidée, enfin il y a X raisons, et c'est pour ça qu'on fait des médias training, pour justement aider les gens à se sentir mieux en confiance, et pas à être encore une fois dans le mythe de la manipulation et on va tout contrôler. Le contrôle de l'information, de toute façon, alors ça c'est du pipeau, c'est la tarte à la crème que certains journalistes utilisent en permanence pour vendre leurs émissions d'investigation. Il n'y a pas d'information contrôlée. Ça peut être contrôlé à un moment, mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de circulation de l'information. Il n'y a que dans les dictatures, à la limite. Et encore, on arrive aujourd'hui, via certains réseaux sociaux, via certaines plateformes cryptées, à sortir de l'information. Donc, il faut arrêter. On n'est plus autant de l'ORTF où, effectivement, il y avait le ministre de l'Intérieur qui appelait le rédacteur en chef d'un canard et qui dictait le papier. Ça existait. Vous avez des gens comme Jean-François Kahn, qui était le fondateur de l'événement Jeudi, Marianne, etc., qui racontait ça quand il était jeune journaliste, il entendait son chef prendre les ordres du ministère. Ça existait. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Plus du tout. C'est fini, ce genre de truc, mais c'est un coup qui va faire exploser la baraque après.
Paul, en même temps, le fait que les communicants, ceux qui vont parler, porter l'entreprise, soient de plus en plus entraînés à la prise de parole médiatique, ça entraîne une certaine langue de bois, ou en tout cas le fait de bloquer les questions qui fâchent. Comment on fait quand on est journaliste pour contrer cette nouvelle préparation qu'ont les gens ?
Bah, la langue de bois, c'est un discours comme un autre, c'est-à-dire que nous, on va le retranscrire, parce que c'est la responsabilité de la personne d'utiliser cette langue de bois, mais on va pas forcément la prendre pour argent comptant. C'est-à-dire que c'est à ça que servent notamment toutes les nouvelles plateformes de fact-checking, ça sert tout simplement à mettre en parallèle le discours et puis les faits. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle et fait de la langue de bois, d'ailleurs on s'en amuse et le petit journal fait son beurre là-dessus, c'est-à-dire que la langue de bois, ça se remarque, et pas seulement par les journalistes, ça se remarque très souvent. Et au-delà de la langue de bois, il y a des discours qui omettent certains faits, etc. Et ça, c'est facile de les décrypter aussi. Après, le problème, je pense, du fait qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information et plus aux informations, c'est qu'il y a plein de sources d'informations contradictoires et qu'au bout d'un moment, c'est difficile de s'y retrouver. C'est difficile de s'y retrouver parce que tout le monde, chacun défend sa paroisse et c'est très très difficile d'affirmer que son point de vue en tant que média est valable et est mieux que d'autres médias des sites d'information qui sont très suivis et qui font pas forcément le même travail que nous.
Oui, mais alors justement, ça me tend une perche sur des sites qui ont le don de m'agacer, tous ceux qui s'appellent les sites de contre-information, de réinformation, de nouvelle information, j'en passe et des meilleurs, et qui surfent complètement justement sur le complot des grands médias officiels qui sont de toute façon asservis aux patrons, aux entreprises, etc., qui nous cachent tout, qui nous disent rien. Et ça a commencé avec Thierry Messant et le 11 septembre, et puis depuis, avec Internet, maintenant, c'est hyper facile. En plus, les sites sont graphiquement bien faits, donc ça donne des impressions de sérieux, même si ça raconte des absurdités, des énormités, mais immondes. Ça, c'est le travail justement à la fois des journalistes évoluant dans des médias sérieux et des communicants, de bien travailler leur information et justement d'éviter la langue de bois. Moi, ça, c'est un truc, en tant que DIRCOM, je conseillais toujours mes dirigeants en disant arrêtez de sortir des phrases toutes faites qui intéressent d'abord personne, qui nous font passer pour des gens qui veulent rien dire, alors que parfois, c'est même pas le cas. On va essayer de trouver un ton agréable, plaisant, qui reflète la personnalité aussi de la personne. Les journalistes seront contents parce qu'ils ont quelqu'un qui s'exprime bien, qui est clair. Voilà. Et là, à partir de là, on a fait notre boulot de part et d'autre. Et ça évitera des pseudo-sites d'aller voir encore des complots ou des magouilles. Parce qu'au final, j'aimerais bien savoir quel scoop a sorti un site comme Liberté et Réconciliation, là, le site d'Alain Soral.
Égalité Réconciliation.
Et Égalité, voilà. Il y en a tellement. Ou Boulevard Voltaire, qui ne font qu'affirmer sur des choses plus ou moins vraisemblables. Et puis après, à vous d'apporter la preuve que c'est faux. C'est pour ça qu'on a, et c'est pour ça que j'avais fait un livre, Journaliste, nous avons besoin de vous, parce que pas dans le sens on va vous contrôler, vous manipuler pour que vous disiez ce qu'on veut entendre, mais tout simplement qu'on ait des médias sérieux qui fassent apparaître la diversité des points de vue, et après aux lecteurs, aux téléspectateurs de se forger une opinion. Et puis si on est un petit peu quand même cultivé, on sait très bien que Le Figaro a plutôt une ligne de droite, que Libé a plutôt une ligne de gauche, que Le Monde c'est plutôt centre-gauche, etc., etc. Et qu'à partir de là, on est capable de faire sa propre tambouille personnelle.
Paul, tu as parlé du Petit Journal, qui est justement une émission qui adore reprendre les éléments de langage des politiques et comparer ce qu'ils disent avec la réalité. On a aussi une autre émission qui aime bien déconstruire la communication des personnalités, c'est Média le magazine sur France 5. Qu'est-ce que tu penses de ces émissions ?
Le Petit Journal, c'est une émission assez particulière parce qu'elle a commencé dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans le domaine de notamment ce qui a fait vraiment connaître et décoller le Petit Journal, c'est de montrer à quel point les éléments de langage étaient reproduits à l'identique. Calquer deux discours de Nicolas Sarkozy à quelques mois d'intervalle, ça fait rire tout le monde, c'est très drôle, je le cache pas. Après, le Petit Journal a eu des petits problèmes au niveau de leur crédibilité, parce que ils ont... ils n'ont pas beaucoup de travail d'investigation qui va essayer d'un petit peu de démonter les discours. On va se moquer des communicants, de leur manière de communiquer, mais en fin de compte, c'est assez rare qu'on apporte un moyen de vérifier. Donc du coup, on va être un petit peu... C'est une mission qui va contribuer à décrédibiliser tout le monde. Et il n'y a pas ce côté un petit peu de l'autre côté d'informer, comme le fait par exemple la rubrique des intox de Libé et d'Arte, ou les décodeurs du monde, qui sont des sites qui vont essayer d'apporter une vérité objective, le plus possible, une information. C'est vraiment le côté informatif par rapport à un discours qui, lui, n'est pas une information, mais une opinion ou un point de vue. C'est pour ça que moi, le mot réinformation me fait très peur, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'information. Ça veut dire qu'on va reconstruire une information qui n'est basée sur rien. Les gens qui travaillent sur ces sites-là ne font pas du tout le même métier que nous. Il n'y a pas de travail de recherche, presque pas. Il y a du travail de collecte qui est fait avec un certain filtre, avec le filtre de on nous ment, ce n'est pas ce que vous pensez que c'est. Donc déjà, ça part du principe que c'est faux. Donc nous, on va dire quelque chose de vrai et qui, en fin de compte, sert un point de vue, une opinion politique, idéologique, qui est alors que nous, on n'est pas là pour apporter une idéologie quelque part. L'idéologie, c'est vraiment un truc qui peut détruire l'information et qui peut détruire aussi la communication, parce que la transparence est quelque chose d'essentiel, je pense.
Alors sur ces deux émissions que vous citez, pour moi, elles sont radicalement différentes entre Le Petit Journal et Média Le Magazine. Le Petit Journal, c'est, on va dire, moi je le qualifie d'infotainment. Plus ça avance dans les années, plus malheureusement je trouve que ça dérive un peu. Autant au départ c'était intéressant comme point de vue de prendre le contre-pied, de souligner les grosses ficelles communicantes. J'avais même fait un papier sur mon blog en disant que c'était même un outil d'amélioration pour nous les communicants, parce que ça nous évitait de faire certaines boulettes. Maintenant, c'est le problème de se renouveler tous les jours avec une quotidienne. On extirpe un peu tout et des fois, on grossit tellement que ça en devient vraiment de mauvaise foi. Donc voilà, on est plus dans le côté la déconne. Média Le Magazine, c'est déjà plus posé, c'est plus sérieux. Il y a du travail d'enquête. Alors après, on peut être d'accord, pas d'accord avec certains points de vue qui sont défendus. Ça, c'est autre chose. Mais il y a un travail éditorialisé, ce qui est moins le cas sur Le Petit Journal.
On a trouvé une enquête réalisée par GfK Verein en 2014. 24% des Français font confiance aux publicitaires et 40% font confiance aux journalistes, alors que ces derniers ont un rôle quand même essentiel dans une démocratie. Pourquoi, selon toi, Olivier, les journalistes ne bénéficient pas d'une confiance plus élevée de la part des Français ?
C'est même pire que ça, parce que si vous prenez le fameux baromètre qui existe maintenant depuis 20-25 ans de La Croix, qui paraît tous les ans, qui a encore récemment paru, le taux de défiance est encore plus énorme envers les journalistes, et pour une simple et bonne raison, c'est que beaucoup de gens pensent, alors parfois à raison, parce que certains vraiment ont prêté le flanc dans les journalistes, que ceux-ci sont complètement asservis aux politiques en particulier, c'est souvent avec les hommes politiques, aux entreprises aussi, ou en tout cas tous ceux qui ont un certain pouvoir. Et voilà, ils mettent tout ça dans le même sac. Après, quand la publicité, c'est encore autre chose. Hein. Moi, je fais bien le distinguo, publicité, communication, ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens mélangent effectivement la com et la pub. La pub, c'est là pour effectivement vous faire acheter, vous séduire, déclencher l'impulsion d'achat. La communication, c'est là pour fournir un certain nombre d'informations d'un certain point de vue de l'entreprise, d'un dirigeant, de qui vous voulez, à des journalistes, mais maintenant c'est d'autres personnes, puisqu'on peut travailler aussi justement avec des blogueurs influenceurs. Ça s'est assez étoffé, le nombre de personnes qui y parlent. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il y ait ce taux de défiance aussi grand parmi les journalistes, parmi le public, à l'égard des journalistes, parce qu'aujourd'hui, ça fait le fumier, mais je maintiens le mot, que utilisent les sites de réinformation, etc., en disant « Regardez, nous, on est crédibles, nous, on est honnêtes », alors que c'est du militantisme pur et dur et très généralement qui verse dans les extrêmes. C'est aux journalistes de se prendre en main, justement, et nous, communicants, de nettoyer dans la profession ceux qui utilisent des techniques pas forcément qui sont borderline, voire plus que borderline.
Tête de com, c'est déjà terminé. Merci Paul Verdeau, merci Olivier Simelière pour
merci.
Vos témoignages.
Merci à vous.
On espère que cette émission vous aura remis les idées au clair sur la relation entre les communicants et les journalistes. Le podcast arrive très bientôt sur radiocampusparis.org et notre page Facebook Tête de com, tête au pluriel, tiré Radio Campus Paris. Et n'oubliez pas qu'on est aussi sur Twitter, @ tête de com. Tout de suite, c'est La Souterraine et la semaine prochaine à 20h, vous avez rendez-vous avec Le Comptoir Digital. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour se remettre de nouveau les idées au clair sur la communication. Ce sera le vendredi 6 mai à 20h, toujours sur Radio Campus Paris. À très vite, salut !